Bien, les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
La pizza, les pizzas.
Jambon, tomate, mozzarella.
C'est un peu comme au patinage artistique ou aux Oscars. Il y a la pizza la plus rapide, la meilleure, la plus belle. Ne peuvent concourir que les pizzaioli en tenue avec couvre-chef. Le règlement précise qu'il convient d'éviter tout baroquisme. Tout ingrédient doit être comestible. Le rouleau est sacrilège. Les décisions du jury sont sans appel. Seuls en costume, les Napolitains qui veillent sur la température et la tradition.
D'abord, vous l'avez peut-être remarqué, je sens l'arôme. Mais lorsqu'on avale un morceau, ces arômes remontent. Je vérifie ainsi s'ils se marient bien. Si un arôme domine, il y a disharmonie. C'est comme si dans un orchestre, un violon jouait trop fort par rapport à un autre instrument. Il n'y a plus d'harmonie.
Elle est partie de Naples, il revient toujours, mais l'accomplissement de son destin est passé par la diaspora. La pizza dépasse toutes les frontières, y compris celles qui séparent le Nord et l'Italie du Sud. Elle franchit les barrières confessionnelles, elle peut être halal, cachère, elle est vendue chaude à table, tiède dans le carton d'un livreur, congelée dans les distributeurs. Et à mesure qu'elle s'émancipe de toutes les définitions un peu stables, Naples tente de se la réapproprier. La municipalité de la ville a fixé une réglementation dont on n'est pas sûr que les 1500 pizzerias de la localité l'observent. L'Union européenne a enregistré la pizza napolitaine au titre de spécialité traditionnelle, fondée sur des caractéristiques visuelles, organoleptiques, enfin autant dire autorantes, et des consignes strictes de levage et de cuisson de la pâte. Et ce mois de décembre 2017, voici que l'UNESCO introduit dans son grand registre du patrimoine immatériel de l'humanité l'art du pizzaiolo napolitain. Il nous est dit qu'il remonte au XVIe siècle et qu'il associe technique, gestes, chansons, sourires. La longue histoire de la pizza est faite de tant d'emprunts qu'il fallait bien à un moment donné procéder à une augmentation de son capital historique de départ. C'est le charme discret de l'UNESCO d'ailleurs. Elle peut conduire ce genre d'opération sans bourse déliée.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Sylvie Sanchez, bonjour.
Bonjour.
Votre thèse d'anthropologie sociale sur la pizza au début de ce millénaire, et puis un livre qui vient de connaître une édition de poche, CNRS Biblis, Pizza, cultures et mondialisation. J'ai employé le mot d'emprunt. Oui, un emprunt, c'est un jeu d'influence réciproque.
Exactement, c'est-à-dire on a toujours eu peur de l'emprunt. Hein. On a toujours peur de la mondialisation et de l'homogénéisation, mais l'emprunt c'est un mouvement. En fait, il n'y a jamais de culture seulement donneuse ou seulement preneuse. C'est un mélange qui se fait. Alors parfois l'équilibre des forces ne va pas toujours dans le sens qu'on attend, mais ce sont des mélanges.
Et puis le total qui est instable, qui se forme à un moment donné dans un lieu X, est toujours supérieur à la somme des parties. C'était notre partie théorie. Et maintenant, on va faire un petit peu d'histoire. Alors, la pizza remonterait à Naples au XVIe siècle. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est l'éventail, l'ouverture de l'éventail, le fait de pouvoir dire qu'elle est, dès le départ, plurielle.
Oui, alors effectivement, et ça on en trouve trace dans les premiers documents d'archives qui traitent donc où on trouve le terme pizza. On voit dès le départ elle est duelle, c'est-à-dire elle est blanche par contre, mais elle est au moins sucrée et salée.
Ah, il y a de la pizza sucrée.
Il y a de la pizza sucrée. Alors on en a vu des formes, des résurgences réapparaître au cours du XXe siècle. C'est pas là-dessus qu'on attend la pizza. Mais initialement, on a la version de cour qui est sucrée, Donc ça aussi, c'est important. Elle a eu sa version noble. Et puis la version plus plébéienne, un matefain, en fait, qui est salé. Et ça remonte. On a des traces dès le XVIe siècle.
Et ça, c'est pour le gueux, le lazzarone.
Effectivement. Et le lazzarone, donc ça, c'est le terme qui a été popularisé par Alexandre Dumas, hein, dans ses récits de voyage, où il nous décrit la vie napolitaine. Et lui aussi fait partie des témoignages très importants. Il n'y en a pas des milliers, sur la pizza à Naples. Et c'est à travers ces quelques documents d'archives, on va dire, qu'on peut vraiment associer Naples et la pizza.
Mais comment vous retrouvez dans l'archive le geste ? C'est fondamental, nous dit l'UNESCO, quand il sélectionne l'art du pizzaïolo. Le geste du pétrissage, le geste du levage,
le... Le geste tel qu'on on se l'imagine aujourd'hui, le geste du pizzaïolo, hein, celui dont nous parle l'UNESCO, celui-là, j'ai envie de dire, et qui correspond plus à une emphase moderne qui permet de distinguer l'Italie des États-Unis ou de la France. Mais dans les documents, même jusqu'au XXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, on ne fait pas mention du geste. Alors il existe, mais ça n'est pas une façon de valoriser l'art du pizzaïolo. D'ailleurs, le pizzaïolo, très longtemps, il n'a pas eu ses lettres de noblesse.
Ouais, mais alors les caractères originaux, alors c'est quoi ? C'est la pâte, c'est la manière de la cuire, c'est le four qui la contient ?
Alors effectivement, il y a tous ces éléments, mais sur lesquels on insiste plus ou moins, suivant qu'on est italien ou qu'on est dans notre pays. Alors en Italie, on a le document d'appellation protégée qui a été déposé dans les années 90 pour justement protéger cette recette, donc la recette originelle de Naples. Les Napolitains sont remontés dans les documents historiques dont je parlais initialement pour retrouver les éléments de recette et ils ont formalisé finalement la chaîne technique de production de manière à pouvoir rattacher la pizza à Naples avec les ingrédients napolitains, le savoir-faire napolitain, etc.
Mais plus qu'aux archives, j'ai l'impression que dans la mentalité courante, on fait appel aux souvenirs dynastiques, aux souvenirs familiaux qui se transmet de père en fils. C'est un extrait du documentaire d'Arte Pizza Nostra.
Jambon, tomate, mozzarella et champignons. Et bien entendu de l'huile d'olive. La pizza Giovanni. Le prénom de mon père. Papa était pizzaïolo et mon grand-père était pizzaïolo. Pizzaïolo a toujours été le métier de la débrouille. Vous voyez cette spatule ? Ça ressemble à ce qui sert à faire du plâtre. Et voici la célèbre stufa napolitaine dans laquelle on transportait les pizzas. Vous voyez, j'ai enlevé ma casquette. Pourquoi ? Avant, quand on portait les pizzas à domicile, il fallait mettre ceci. C'est un torchon qu'on met comme ça. Puis, on mettait la stufa sur la tête. Car bien entendu, les pizzas étaient chaudes. Et on apportait les pizzas à domicile. C'était le système classique napolitain, une sorte de précurseur de pizza à domicile.
Bon, alors la pizza à domicile, la pizza à table fixe, la pizza dans la rue, sur des étals, sur des comptoirs.
Oui. Donc ça, effectivement, c'est le tableau qu'on a de Naples, en tout cas du Naples du 19e siècle, de la moitié du 19e siècle. La pizza, bon déjà, effectivement, on a quelques pizzerias à Naples, elles existent, elles sont pour ceux qui ont les bourses les plus épaisses, on va dire. On a la pizza qui se vend par les rues, et on a aussi les restes de pizza qui se vendent aux plus pauvres, etc. Donc en fait, ce commerce la pizza à Naples, qu'il soit ambulant ou attablé, il nous dit aussi qui a accès à quel type de pizza. Même si ça faisait partie des mets réservés aux plus pauvres, il y a encore des échelles à faire parmi les plus pauvres.
Et parmi les plus pauvres, il y a ceux qui payent la pizza à crédit ?
à Otto. Eh oui, qui payent la pizza à crédit. Ceux-là ne sont pas les plus pauvres, puisqu'il y a ceux qui récupèrent les cornicione. Donc le cornicione, et ça fait partie d'ailleurs des éléments de définition de la pizza napolitaine. C'est le tour de pâte qu'il y a autour de la pizza, autour du disque. Donc il y en a qui étaient obligés de se contenter de ça. Éléments donc qui étaient laissés à la table des pizzerias, de ceux qui avaient plus de moyens.
Et puis il y avait les clients riches, tel le roi de la dynastie ancienne de Bourbon, qui aurait visité, en dépit des réclamations de son épouse et des observations de la cour, une pizzeria, ou telle reine de la nouvelle dynastie de l'Italie unifiée, la dynastie de Savoie. À la fin du XIXe siècle, la reine Margherita, ça fait aussi partie du légendaire de la pizza. Toujours le documentaire d'Arte de Pierre-Olivier François.
À la fin du XIXe siècle, cette pizza du peuple a même participé à l'unification italienne. En 1889, en effet, pour s'attirer les bonnes grâces des fiers napolitains, le nouveau roi et la nouvelle reine d'Italie invitent le plus célèbre pizzaïolo de la ville au château.
Alors le Raffaele Esposito en question et sa femme Brandi ont mis de la mozzarella sur la pizza avec de la tomate et du basilic. C'étaient nos couleurs, les couleurs de la patrie. Blanc, rouge et vert, le drapeau italien. Lorsqu'on apporte le plat à la reine, elle est enthousiaste. Elle dit « C'est magnifique, ce sont nos couleurs ». À vrai dire, je n'y crois pas trop, parce qu'elle ne parlait pas un mot d'italien, elle parlait seulement français. En tout cas, c'est la légende. Et à partir de 1899, cette pizza a fait le tour du monde avec le nom de notre auguste reine, la première grande reine d'Italie.
Oui, et qui venait de la maison de Savoie, comme son époux qui venait du Nord.
Tout à fait. Donc là, l'idée, en fait, alors peut-être ce qu'on peut dire d'abord, c'est que la pizza, si elle perdure, c'est aussi parce qu'elle a su se créer des légendes et toute une mythologie. Donc là, peut-être, ce qui est important avec ce geste du roi, effectivement, du monarque venu du Nord, c'est ce terme-là qu'on trouve dans les textes, c'est qu'en fait, il descend à Naples pour essayer de valoriser les Napolitains. Et donc la spécialité de Naples à cette époque, c'est déjà la pizza. Et donc, en commandant cette pizza spéciale qui va porter le nom de la reine, il permet de donner une charge symbolique à la pizza napolitaine dont elle était complètement dépourvue avant le geste royal. Et ça, c'est essentiel pour l'histoire après de l'expatriation de la pizza. Hein. Pourquoi la pizza a été faite pourquoi est-ce qu'on a continué à la fabriquer en dehors de l'Italie pauvre et misérable, alors que normalement les immigrés choisissaient des mets de meilleure qualité, etc., une fois qu'ils avaient quitté la pauvreté? Mais là, voilà, grâce au geste d'Umberto, elle va faire partie des éléments de l'identité italienne.
Alors, on va parler de la trajectoire de la pizza qui suit celle des migrants. Mais juste encore un mot du roi et de la reine, ils ne mangent pas ça à la cour à Rome ou à Turin.
Pas du tout, d'autant qu'on sait aussi qu'une quarantaine d'années auparavant, 30 ou 40 ans auparavant, les Napolitains avaient eux-mêmes déjà essayé d'importer la pizza à Rome et ils avaient reçu un échec cuisant. Hein. Donc non, à cette époque-là, on ne mange la pizza qu'à Naples. Et dans toutes les autres régions d'Italie, il y a des choses comparables à la pizza, le schiacciatine, enfin il y a toute une variété que j'ai appelé les pizzas locales, qui se font dans chaque paese particulier et personne n'a besoin d'emprunter la pizza des Napolitains.
C'est seulement quand la pizza napolitaine va connaître le succès que vous direz aux États-Unis ou en France, par exemple, qu'elle montera jusqu'au nord de l'Italie. Voici Aurelio Ferrio. Nous sommes dans les années 1960. C'est un grand et plantureux chanteur napolitain qui va d'ailleurs créer une chaîne de restaurants en Amérique. Et en Amérique, particulièrement en Amérique du Nord, il fait des tournées où il chante la pizza avec des propos du genre Je voulais te payer à crédit un brillant de 15 carats, t'as pas voulu. Je voulais te mettre dans un beau restaurant au bord de la mer. Tu aurais pris du mulet rôti, tu n'as pas voulu. Tu voulais seulement de la pizza.
Io tengo un drive, volevo offrirti pagando l'ancarrate, no brillante, e quinne se carate. Ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, capummaro l'angoppa, capummaro l'angoppa. Ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, capummaro l'angoppa. Io te portai a dove stanno meglio ristorante, a dove si mangia mentre mare canta. Io te portai entusiasmato da tutto sta parata, ordinai nucefa l'arrostuta. Ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, capummaro l'angoppa, capummaro l'angoppa. E mangiate la pizza, a pizza, a pizza, capummaro l'angoppa, a pizza insieme a me.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
La pizza, ou plutôt les pizzas. Sylvie Sanchez est à nos côtés, qui a consacré sa première vie de chercheuse à la pizza. Heureusement, vous en prévoyez encore deux autres. Et chez Biblis, édition du CNRS, édition de poche, votre livre sur les pizzas. Oui, imaginons les restaurants italo-américains d'Aurelio Ferrio. On devait bien sûr y proposer de la pizza, mais c'est l'ensemble de la culture gastronomique italienne qui se constitue dans l'unité aux États-Unis.
Alors effectivement, l'idée, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au moment où les Italiens s'expatrient, donc massivement entre la fin du 19e et le début du 20e, on a un peuple dialectophone. Donc chaque région parle son propre dialecte, il n'y a pas de cuisine nationale, il n'y a pas d'identité nationale. Tout ça, ça va se construire essentiellement à l'extérieur du pays. Et par contre, ce qu'ont à l'époque en commun les Italiens, quelle que soit la région de laquelle ils arrivent, ce sont des spécialités de pâtes, chaque région a sa spécialité de pâtes, et sa pizza locale, donc on en a dit un mot à peine, et donc c'est autour de ces éléments-là que la cuisine italienne et l'italianité va se construire. Par exemple, pour ce qui est de ce qui se passe en Italie, les livres d'Artusi sur la cuisine nationale, c'est au tout début de 1900. Avant ça, il n'y a pas d'inventaire systématique qui est produit.
Alors, une anthropologue distinguée comme vous s'intéresse bien sûr à la question du rapport de la pizza et de la religion. Il y a toute une thèse qui consiste à dire, Pascal Horry, historien de la gastronomie, la défend, que la coupure principale est entre protestants et catholiques, par exemple aux États-Unis, Kellogg's, la santé, le puritanisme, tout tamisé, tout transparent, et la pizza catholique. Guerre.
Alors, c'est un découpage qu'on peut choisir de faire, effectivement, quand on essaie de lire les histoires de l'alimentation. Ce qu'on peut dire, là, sur cet héritage catholique-protestant pour la pizza, c'est que quand elle arrive aux États-Unis, donc la fin du 19e est marquée par une vague d'hygiénisme où on va valoriser, en fait, les fonctions mécaniques du corps, on va mettre en avant, on va découvrir les vitamines, tous les nutriments qui constituent les aliments. Et parallèlement à ça, les États-Unis sont obligés de faire face à des vagues de migrants incroyables. Pour ce qui est des Italiens, et peut-être, je précise, on devenait américain, c'était le credo des hygiénistes, en mangeant comme un Américain. Alors, les hygiénistes qui vont visiter les familles napolitaines donc constatent que on mange beaucoup de pâtes et de spaghettis, notamment de macaroni, à la sauce tomate. Et cette sauce tomate, elle est porteuse des vitamines, etc. Donc, en réalité, la pizza va emboîter le pas à des saveurs appréciées et valorisées par l'Amérique de l'époque. Donc la tomate, les protéines peu chères comme peut l'être le fromage. Donc ça, voilà, ça va. La pizza va rentrer là-dedans. Comme elle a fait, en fait, à bien d'autres occasions, elle parvient toujours à se glisser dans
Oui, mais ce que je veux vous faire dire, c'est qu'on n'a pas vu de pub pour la pizza, bien sûr, pour ses valeurs nutritives, mais comme produit excellent pour la santé, à la différence de Kellogg's.
Effectivement, alors je rajouterai quand même que ces derniers temps aux États-Unis, la pizza avait quand même été classée dans les cantines comme un légume à cause de la quantité de tomates qu'elle contient.
Mais bon. À propos de pub, en voici deux bien connus pour le compte de la chaîne Pizza Hut, un ancien dirigeant et un futur. Alors l'ancien dirigeant, c'est Gorbatchev, que les clients de Pizza Hut reconnaissent dans leur établissement préféré en compagnie de sa femme et...
Это Горбачев.
За Горбачева!
За Горбачева!
За Горбачева!
Nothing brings people together like a nice hot pizza.
Napoléon, Alexandre le Grand, Donald Trump, nous sortons tous du même moule. Et c'est un très très grand moule. Ce n'est pas trop grand, n'est-ce pas?
Non.
Prenez à gauche sur l'avenue Donald Trump. Engage-toi à fond, rentre chez toi.
Il mange de grandes pizzas comme la grande New Yorker de Pizza Hut. Elle est 40% plus grande, une pâte moelleuse et fraîche. Maintenant, à partir de 9,99$.
Ils doivent perdre de l'argent là-dessus.
Et le futur dirigeant, c'est Donald Trump. On va passer sous silence, si vous le voulez bien, les vertus de Pizza Hut. Vous étudiez longuement, Sylvie Sanchez, l'introduction de Pizza Hut en France aussi. Mais en France, la pizza par la diaspora italienne est venue en même temps qu'aux États-Unis, avec des caractères singuliers là aussi.
Effectivement, alors l'idée c'est que... Quand on travaille sur l'histoire des adoptions, on est confronté en fait à la totalité de la société dans laquelle les immigrés arrivent. Et il y a notamment le rapport à l'intégration, la façon dont les migrants étaient traités respectivement en France et aux États-Unis. Alors en France, on valorisait depuis longtemps les cuisines régionales et les immigrés qui arrivaient pouvaient continuer à faire leur spécialité régionale pour autant que ça reste pour eux, entre eux.
Les immigrés, quand ils étaient vendéens, ils étaient traités de ventre à choux, par exemple.
Effectivement, ça n'a jamais empêché les efforts de différenciation. Mais l'idée, c'est de garder en tête que c'est comme ça, finalement, qu'on retrouve des pizzas bianca à Marseille. C'est-à-dire les mêmes Napolitains qui se sont expatriés d'une part en France et d'autre part aux États-Unis. En France, on voit qu'ils se mettent à faire de la pizza blanche, alors qu'aux États-Unis, elle est immédiatement rossa, avec la tomate. Donc là, c'est bien l'emblème identitaire de la nation italienne qui est mis en avant aux États-Unis, tandis qu'en France, c'est la régionalité. La bianca, c'est celle du paese, c'est celle dont on trouve les traces au XVIe siècle et bien avant encore à Naples.
Donc la pizza s'inscrit dans un emboîtement de culture gastronomique régionale. C'est pour ça qu'il y a une pizza provençale.
Alors effectivement, la pizza provençale, elle, c'est un syncrétisme qui naît en fait d'un mélange de communautés qui se côtoyaient, qui étaient donc les communautés napolitaines, siciliennes et provençales. Et à Marseille, avant-guerre, va naître cette pizza à la tomate et aux anchois, donc qui est la pizza marseillaise.
Vous insistez beaucoup sur le rôle de Marseille. Et oui. Marseille comme vecteur de... Camion à pizza, ça c'est un mode de diffusion de la pizza qui est assez propre aux axes géographiques qui se dessinent à partir de Marseille.
Tout à fait. En fait, on peut considérer que le rôle du camion à pizza est aussi important que le rôle des antennes de livraison pour les États-Unis. Donc c'est dire, ça ressemble, c'est du petit artisanat, ce sont des initiatives individuelles, mais à Marseille... où le camion à pizza a été inventé, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et ce camion à pizza, il a ses racines des communautés napolitaines de Marseille, hein, le laboratorio, le petit comptoir depuis lequel on mettait en vente la pizza, on l'a rendu mobile. Et les générations d'après-guerre, donc qui n'étaient plus napolitaines, mais qui passaient par Marseille pour monter à Paris cette fois, ils voyaient le spectacle des camions dans Marseille et se disaient « Mais pourquoi pas, je vais moi aussi me lancer dans la pizza ». Et ça, ça a œuvré pour la diffusion du modèle en France.
Paris est bien en retard sur le sud, comme Rome sur Naples, première pizzeria en 1950 seulement. Alors vous pourriez nous parler de la plasticité de la pizza dans tous les pays. Au Japon, pays moderne sans être occidental, la pizza pénètre aussi ?
Mais la pizza a quand même réussi à pénétrer au Japon et j'ai envie de dire que le plus étonnant, c'est quand même que c'est une culture qui traditionnellement n'utilise pas de four. Et quand même, la pizza sans four, c'est compliqué. Donc même eux se sont laissés prendre à la séduction.
Mais au Japon, il y a d'autres produits plastiques qui peuvent se développer internationalement et qui pointent, avec le même principe que la pizza, un contenant, puis des contenus extrêmement divers. Je veux parler de la galette bretonne.
Je me souviens, la première fois que j'ai mangé chez toi, je ne comprenais rien. En entrée, une galette. Le plat, une galette. Le dessert, encore une galette. À la fin, je n'en pouvais plus.
En 10 ans, Bertrand Larcher a gagné sa place au sein de la bourgeoisie japonaise. Au cœur du quartier historique de Tokyo, il a créé une crêperie, un vrai petit coin de Bretagne.
Et quand j'ai mangé, c'était meilleur que toutes les crêperies de Paris, vraiment parmi les meilleures que j'ai mangées en Bretagne.
C'est vraiment délicieux.
C'est la première fois ?
Ah, j'y mettais.
Oui, c'est la première fois.
Et ça vous fait penser à quoi ?
Aux nuits japonaises, c'est à cause du sarrasin, je pense. En fait, c'est assez facile à manger. Je trouve ça assez léger. Au Japon, parfois, on sale trop. Et du coup, on a vite l'impression d'être gavé.
L'émission Les Toqués du Terroir, du mot Audran. Vous ferez la comparaison, volontiers, entre la galette bretonne et la pizza napolitaine, non ?
Leur destin, en tout cas, n'a rien de comparable.
Mais si, il y a le geste, gloire. Le geste.
Ah ben oui, mais il n'y a pas de geste, la crêpe n'occupe pas l'espace, hein, la crêpe, ben non.
Ben elle se soulève, elle lévite.
Elle se soulève, oui, effectivement, on peut la mettre en scène aussi.
On la flambe.
Ben oui, mais de toute évidence, elle n'a pas su créer toute cette mythologie qu'il y a autour de la pizza, qui a été reprise pour la pizza par les Napolitains, par les Marseillais, par les Américains. Elle a toujours eu des défenseurs qui pouvaient se battre les uns contre les autres, d'ailleurs. Mais la crêpe bretonne, non, n'a pas cette...
Il faudrait peut-être un effort de marketing. Et alors, vous y connaissez, vous, en marketing ?
Oui, je m'y connais bien en marketing. Mais alors, j'ai envie de dire que peut-être, moi, ce que je retiens du petit extrait que vous avez diffusé, c'est que la dame japonaise qu'on entend dit « Ah, mais ça ressemble aux galettes, aux crêpes, aux nouilles de sarrasin. Hein. » Et je pense que plus important que le marketing, qui peut donner l'impression... c'est comme un feu d'artifice, le marketing. Ça ne veut pas dire que les choses s'ancrent de façon pérenne dans les cultures. Hein. Là, la dame japonaise, dans cette crêpe, elle trouve quelque chose qui fait écho à des habitudes qui sont déjà là, hein, à des textures qui sont déjà présentes dans sa culture alimentaire. Ça, c'est une raison pour laquelle la crêpe bretonne pourrait prendre racine là-bas.
Donc vous recommandez pour l'élargissement l'enracinement, quoi ? D'ailleurs, la pizza, on dit qu'elle a des origines grecques avant d'être napolitaine, des origines romaines après avoir été grecque.
Oui, effectivement, mais la galette, en fait, la galette de pain avec quelque chose dessus jeté, ça, j'ai envie de dire que c'est transhistorique, enfin, c'est dans tous les pays.
Donc, le recours à la pauvreté, c'est un excellent moyen pour l'enrichissement des pizzaioli.
Tout à fait.
Merci à vous, Sylvie Sanchez. Pizza, culture Z, mondialisation, Biblis, CNRS. L'émission a été réalisée par Audrey Ripouille, préparée par Franck Olivard et Louise Harwin. Et Paul, notre stagiaire à la traduction, à la technique, Christian Gratalon.